Séquence Archipel en compagnie de Pierre Emptin ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Nous allons passer deux séquences ensemble, Pierre.
Carrément.
Les deux dernières de la saison. Vous allez clore cette saison en beauté, en évoquant...
On va voir.
J'en suis sûr. Et puis le sujet est particulièrement intéressant. On va revenir à un événement organisé par le Point Culture. C'était à Bruxelles jusqu'à la fin du mois de mai. Une exposition autour d'un projet, la collection Morel, initiée par Marie-Pierre Bognol. Pour ceux qui sont passés au Point Culture, eh bien, ils ont vu l'installation qui avait été déployée dans les lieux. Et pour ceux qui n'y ont pas été, eh bien, on va essayer d'évoquer cette installation et puis tout ce projet de Marie-Pierre Bognol, la collection Morel. Pierre Emptin, si vous venez nous en parler, c'est qu'il y a des suites à cette aventure.
Oui, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans la longueur, dans la lenteur aussi. C'est le projet d'une personne, donc ça part d'une sensibilité individuelle, d'un imaginaire singulier et particulier, mais qui se développe avec, on verra, une dimension contributive importante qui s'installera géographiquement sur une aire très large et avec, enfin, tout le monde pourra participer. Mais c'est effectivement quelque chose que Point Culture a commandé à une personne qui a joué le rôle de commissaire, qui est Marie-Pierre Bognol, qui part d'un désir individuel de créer quelque chose par rapport à un contexte particulier de la société actuelle, mais qui va continuer. Donc on a accueilli la première étape d'un projet qui va grandir au niveau européen, dans d'autres villes, dans d'autres pays, connecter d'autres personnes et les mettre en réseau au niveau de la relation au lieu qui compte pour eux. Donc les relations privilégiées qu'ils développent avec des endroits, une pièce, un recoin, avec lesquels ils ont une histoire particulière.
Et donc ça, c'était la thématique. Le lieu qui est un endroit où se déploie finalement la subjectivité, le ressenti du lieu, c'est ça, hein, l'idée de confronter finalement nos sensations par rapport à un environnement architectural ou autre.
Oui, donc ça, c'est une dimension du projet Collection Morel, qui est de créer une bibliothèque des lieux uniques avec les contributions de tout le monde, donc les récits de tout le monde, par rapport à ces lieux dans lesquels on se sent particulier, on a l'impression de vivre quelque chose de singulier avec l'environnement, avec le monde, avec les choses, avec les plantes, où on a l'impression qu'on nous parle ou que quelque chose nous parle, où on a envie de parler autrement, où on se ressource, où on a des souvenirs qui reviennent, où on a envie de repenser la vie. Enfin, c'est un coin de jardin, c'est un coin de grenier, c'est tous ces lieux avec lesquels on a construit notre sensibilité, notre identité, et pour lesquels il y a très peu d'études formalisées. C'est souvent des choses qu'on laisse passer, c'est souvent des choses qu'on considère un peu comme anormales ou parapsychologiques, ou des contes de bonnes femmes, ou irrationnelles. Et donc le projet ici, c'est d'en faire une véritable connaissance, d'en constituer une véritable connaissance, en faisant appel aux sentis, aux ressentis, à la mémoire, à l'histoire de tout un chacun.
Alors on va peut-être voir quel est ce lieu unique qui a animé Marie-Pierre Bognol au départ du projet de la collection Morel. Vous avez posté sur YouTube une petite vidéo où elle raconte cela. Mmh. Et donc on va écouter Marie-Pierre Bognol nous parler de cette expérience primitive du lieu unique.
Mon lieu unique, je vais l'appeler le coin du jardin. C'est un peu le... À la fois, c'est un lieu unique et universel. Pour moi, il était dans ma maison d'enfance, dans un coin du jardin. Donc, c'est un endroit qui était à la lisière entre le jardin et la nature. C'est-à-dire que c'était un lieu où la végétation formait une sorte d'arche. Et j'avais la bifurcation de perception, ou une sorte d'unité, en fait, se créer entre l'invisible et le visible, la fiction et le réel. Mais pendant longtemps, je ne savais pas définir ça. Je me sentais juste entière. Je sentais juste que c'était quelque chose se passait. Et c'est le lieu dans lequel j'ai creusé, quand j'ai travaillé sur l'exposition, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? J'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit, c'est comme une poche d'énergie, en fait. C'est comme une source d'énergie. C'est un endroit où on a envie de revenir, où on se dit qu'on est bien. Donc, ce lieu n'existe plus. La maison a été expropriée, rasée. Le jardin n'existe plus. Elle appartient à la compagnie de train française. Mais le lieu est inscrit en moi comme la possibilité d'avoir une superposition à un endroit possible entre moi et le monde, la nature et la culture, l'imaginaire et la réalité, le visible et l'invisible, et d'être un être coïncident, c'est-à-dire que je ne me sentais pas plus dissociée, et avec une ouverture vers l'imaginaire qui se superposait à ce que je pouvais voir. Donc ce coin de jardin-là, c'est un des points de départ donc, de la collection que j'essayais de former, en me disant, qu'est-ce qui fait qu'à des moments, c'est plus intense pour moi? Comment ça se fait qu'à des moments, il y a cette superposition? Et donc j'ai essayé de créer un dossier, une sorte de case dans ma tête où j'allais ranger toutes ces expériences de lieu. Et ça pouvait être une chambre avec une lumière spéciale qui se pose, ça pouvait être une grande étendue, ça pouvait être un petit coin, ça pouvait être une galerie comme un tunnel que j'imagine dans mes rêveries, on va dire. Ça pouvait être une cabane de jardin, un grenier. Et ces lieux-là, c'est très difficile de voir le lien, qu'est-ce qui se passe. Et je me suis dit, il y a vraiment aussi une question de lumière. C'est-à-dire que c'est comme quand on est enfant, on se dit, on prend des photos mentales à un moment donné, on se dit, cet instant-là, je veux m'en souvenir parce qu'il y a quelque chose qui se passe, où il y a de l'émotion. Et je vois quelque chose, je relie une émotion à quelque chose, je vais prendre cette photo mentale. Quand j'étais enfant, moi j'avais cette capacité, je l'ai perdue au fil des ans de fixer. J'ai l'impression que le temps m'échappe et que j'arrive plus à fixer. Donc des fois je peux prendre des photos, mais c'est pas pareil. Parce que la photo ne fixe pas le sentiment qui va avec la lumière. Et une partie des définitions des lieux qui m'interpellent dans la collection Morel, c'est des lieux où l'émotion se fixe avec la lumière. Et ce coin de jardin faisait partie.
Marie-Pierre Bognol, qui explique donc le point de départ de son projet de la collection Morel, commande du Point Culture, et puis qui donc est amené à poursuivre sa vie au travers de différentes formes d'expression collective. Pierre Emptine, alors vous avez donc exposé une installation de Marie-Pierre Bognol au Point Culture, et puis il y a eu aussi un colloque, enfin toute une série d'événements, et je crois que ce colloque est encore accessible ou va l'être bientôt en ligne. Vous avez tout enregistré, c'est ça?
Oui, donc on est quand même équipé dans ce qu'on appelle l'agora du sensible avec un plateau média. Donc l'intégralité du colloque a été filmé, enregistré, toutes les séquences seront découpées et mises sur notre chaîne YouTube et disponibles via le site du Point Culture Bruxelles. C'est une histoire assez incroyable, donc on réécoute ce témoignage, une espèce de visitation, et je pense qu'on a tous connu des choses comme ça.
Mais, je pense aussi à vos lectures Terrain Vague, qui sont aussi
oui,
un peu
des recoupements, oui.
Un ressenti de lieux et d'impressions. Vous vous rappelez de votre premier lieu, de votre lieu unique?
Non. C'est un peu ce que j'ai expliqué avec Marie-Pierre Bognol. Dans la deuxième séquence, on fera des essais à partir de musique à laquelle j'ai des histoires particulières. Je n'ai pas tellement de fixation sur des lieux clos comme ça. J'ai des souvenirs, mais c'est plutôt des espaces ouverts, Mais c'est des moments avec une géographie, une topographie particulière. Mais ce qui nous intéresse, notamment avec Point Culture, c'est comment une histoire particulière que quelqu'un peut exprimer, avec laquelle elle peut construire quelque chose à échanger, à montrer, chacun peut reconstituer aussi son histoire singulière. Donc retrouver une part de sa sensibilité et quelque part la partager, puisque c'est un projet où on peut raconter et mettre ensemble. Et donc c'est donner une nouvelle dimension, une autre dimension à la constitution de sa sensibilité, de son identité, de sa relation aux choses, au monde, aux objets, aux plantes, etc. Maintenant, ça part d'une sensibilité singulière, individuelle, une sensibilité à fleur de peau, qui est aussi connectée à un certain constat, à un certain diagnostic social de la société. Il y a une dimension de soin, de développer une attention aux choses. Donc, je sais, dans la première partie où elle parlait de ce projet, elle était fort attirée par les notions de Stiegler qu'il développe au niveau des unités de soins à créer, au niveau de ce que détruit la société, l'hyper-industrialisation, etc. Et dans le texte d'introduction au colloque, Marie-Pierre Bognol disait ceci: « Nous sommes assaillis d'images, de contenus de partout. » Et pourtant, peu de ces messages qui nous atteignent ont ce réservoir de sens qui nous permet d'habiter avec un peu plus de tendresse l'endroit, l'époque où l'on vit. Tout nous rend plus sec, plus perdu, plus meurtri. Le monde ne tourne pas comme nous le voulons et pourtant, le temps de notre existence, nous l'habitons. Donc il y a quand même un constat qu'il y a des choses à soigner. La sensibilité, les pratiques culturelles, il faut les organiser en expériences partageables, mais d'abord singulières, ou on se donne du soin, on se donne de l'attention. Donc il y a ce désir aussi de créer des mécanismes, des processus de soins par rapport à tout un dégât que fait l'accélération,
la vitesse et la sénescence du monde. Oui.
Et on revient quelques vieux dadas, mais qui sont là, qui sont quand même prégnants.
Oui. Alors quand vous dites qu'on peut tous contribuer, on peut tous apporter son lieu unique, ça se passe via quel canal ?
Alors le mieux, c'est de prendre contact avec le site Collection Morel. Le souhait de la commissaire, donc c'est pas de recevoir des témoignages sur des formes différentes, c'est vraiment de recevoir une lettre écrite, avec une enveloppe, avec une adresse écrite, etc. Et donc l'adresse se trouve sur le site Collection Morel. Si vous tapez sur Google Collection Morel, vous tombez tout de suite. Aussi Villa Morel, au début le blog s'appelait Villa Morel, où se trouve déjà toute une série de réflexions. Et donc c'est envoyer la description écrite. Mais ce n'est pas une description littéraire qui est demandée, c'est une description factuelle, c'est avec les mots de tout un chacun. Ce n'est pas un travail littéraire, c'est un travail de consignation, de répertoire. Et donc, quelque part, c'est répertorier les points sensibles avec lesquels on rentre en contact autrement avec le monde. On recrée une condition, comme elle dit, de vie avec plus de tendresse par rapport à ce qu'est la vie et l'environnement. Et donc, quelque part, c'est de faire une cartographie des chakras de la planète pour les uns et les autres, et c'est créer une nouvelle géographie quelque part. Donc c'est un projet pour quelques décennies.
Mais alors on va évoquer peut-être aussi les différentes contributions au colloque qui participent de différentes disciplines, mais avant ça on va peut-être se divertir en musique avec un artiste qui était là au vernissage de cette exposition.
Pierre Bastien était invité, et c'était pas un concert juste pour animer un vernissage qui est un moment musical. Pierre Bastien est quelqu'un qui a pris connaissance du projet, et qui a fait une performance en relation avec le projet et qui continuera dans le développement de Collection Morel à faire des interventions. Et il faut savoir que Pierre Bastien a un côté très littéraire aussi. Il aime beaucoup la littérature. Toute son œuvre est quand même assez reliée à Solus Locus, qui est un livre de Roussel, qui est aussi un lieu imaginaire où Roussel invente des machines particulières. Et inspiré par ce monde-là, Pierre Bastien a créé un univers aussi d'automates. Donc ses premières œuvres, sa première période, je vais dire, c'est il a pris le jeu mécano. Il est de la génération qui a joué avec le jeu mécano. Et il a construit des automates qui actionnent des instruments de musique, surtout des instruments de musique traditionnels. Mais qui ne font pas simplement actionner et bouger et faire du bruit. Qui jouent une partition de musique, donc qui reproduit de manière automatique une musique qu'il a dans sa tête. Et il fait des petits orchestres avec lesquels lui joue d'autres instruments, sa trompette, etc. Donc ce lien avec Raymond Roussel, qui a un lieu déjà imaginaire, ce lien avec la littérature, avec les images mentales, le prédisposait déjà à rentrer dans Collection Morel. Et donc il nous a fait l'honneur de faire une prestation qui était très suivie et très applaudie à l'inauguration de Collection Morel. Mais ce qu'on entend malheureusement, c'est pas ça, c'est une plage d'un disque de 2001, je pense, donc une période un peu plus ancienne, mais enfin, qui donne quand même une idée de l'atmosphère, du type de travail.
Oh.
Pierre Bastien à la trompette de poche, trompette bouchée, et puis son petit orchestre mécano dans cette musique pleine de poésie, hein, vraiment.
Oui, donc c'est tous des petits mécanismes qu'il invente. L'impression que des choses inertes se mettent en mouvement en captant des ondes sonores qui sont dans sa tête, dans son cerveau, un côté un peu hypnotique. En concert, c'est souvent des longues plages, donc beaucoup plus variées, beaucoup plus intenses, avec des crescendo, avec des matières qui travaillent. Un travail sur les ombres aussi, des projections. La trompette, elle est souvent préparée, donc il greffe dessus des sifflets, des choses qui changent les sons. Et alors, il y a souvent ce rythme d'un disque rayé qui accentue le côté hypnotique. Et je me fais la réflexion en regardant la prestation qu'il a fait pour le vernissage de Collection Morel, qu'à un moment donné, c'est plus vraiment une musique. Il crée un lieu. Il crée vraiment un lieu imaginaire. Parce que c'est une musique qui, par le côté un peu comme ça, lancinant, obsédant, convoque des ombres, convoque des fantômes qui apparaissent sur l'écran de projection, mais aussi des fantômes dans la musique, puisqu'il fait apparaître des éléments d'un instrument chinois, mais après qu'il déforme ou qu'il transforme avec des sonorités occidentales, il fait rencontrer l'Afrique avec l'Asie encore, ou le Grand Nord, etc. Donc il y a toute une convocation de fantômes, et il a une prestation très physique, où il manipule toutes ces choses-là, le jeu d'ombre. Et c'est vraiment une matière qui constitue un lieu particulier, qui constitue un lieu unique. Et après, quand c'est fini, le silence, tout est parti, tout s'évanouit. Mais donc, il y avait vraiment du sens à ce qu'il soit là pour ce vernissage, dans ce projet. Donc il y a vraiment une belle adéquation entre la manière qu'il travaille, où il construit son récit sonore, les textures, et l'intention de Marie-Pierre Bognol.
Oui, c'est une forme d'installation éphémère,
oui,
aussi.
Oui, bien,
hein,
sûr.
Moi, ça,
oui,
me fait penser à Tingly, d'ailleurs.
Oui, ce côté un peu
mécanisme, un peu bricolé.
Mais oui. avec de l'âme, ce n'est pas des robots.
Oui. Ouais. Toujours autour de cette collection Morel de Marie-Pierre Bognol. Petite parenthèse, d'ailleurs, Marie-Pierre Bognol, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être un petit mot sur son parcours. C'est quelqu'un qui a initié beaucoup de choses en France, à Paris notamment, des lieux émergents, des lieux alternatifs.
C'est quelqu'un qui a toujours été très actif et très créative. Donc c'est aussi un projet où elle apporte du soin, donc elle a toujours été très créative là-dedans. C'est une des plus jeunes réalisatrices de fanzines sur la musique. Donc au niveau de l'écriture, l'explication des musiques, le repérage de choses dans lesquelles il faut faire attention, qu'il ne faut pas laisser passer comme nouvelle musique, nouvelle sonorité, les liens avec la littérature, l'image. Puis elle a fait ses études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle a créé une ligne éditoriale pour le Nouveau Casino, qui souffrait et qui est devenue maintenant une boîte très, très performante, très, très à la mode à Paris. Elle a participé et contribué à l'élaboration de différents événements culturels, dont Sonic Villette à Paris aussi. Elle a créé une agence pour artistes et elle a un catalogue d'artistes, je veux dire, assez archipélien et assez fragile, mais pas que. Elle va chercher des artistes, des chanteurs qu'on a oubliés, mais qui sont toujours importants, qui font toujours des choses. Donc elle a ce souci aussi de donner une âme à un catalogue et de faire vivre et de diffuser des artistes qui ont, voilà, de l'âme à donner. Oui, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui a déjà un fameux parcours. Oui.
Et donc, dans ce colloque, Marie-Pierre Bognol était là, évidemment, et autour d'elle et de vous, Pierre Imptine, des chercheurs, musicologues, philosophes, esthéticiens, artistes. Elle faisait référence tout à l'heure à son lieu unique, qui est un jardin. Alors, je commencerai par vous demander comment s'est passée cette rencontre avec un spécialiste du jardin, qui est Marco Martella, qui est responsable d'une très belle revue, d'ailleurs, qui s'appelle Jardin, revue annuelle, qui existe depuis quelques années maintenant. C'est vrai que le jardin, c'est un lieu emblématique, sans doute, de ce lieu de refuge par rapport à toute cette pression de la société que vous évoquiez tout à l'heure.
Mais le colloque était très bien foutu, très bien pensé au niveau de la ligne, de la complémentarité, puisque Marco Martella, c'était vraiment une approche du jardin, un vrai jardinier. C'est pas un type qui, à la limite, qui philosophe sur le jardin, c'est un vrai jardinier. Et il parle vraiment de sa relation, ce qu'est la terre, ce qu'est les plantes, et il fera plutôt référence à des traditions romaines par rapport à des dieux, la présence des dieux dans le lieu, etc. Donc, il a sa manière propre d'expliquer comment les lieux sont habités et par quoi, par des génies, par les dieux, par les déesses, etc. Mais c'est pas un fantaisiste du jardin. Vous connaissez sa revue, donc c'est pas n'importe quoi.
Mais c'est une revue qui philosophe beaucoup sur le jardin, justement. Aussi, c'est beaucoup de contributions plutôt d'ordre philosophique et esthétique.
Oui, parce qu'il va chercher des personnes qui aiment ça. À côté de ça, il y avait un spécialiste de Bachelard qui, lui, a beaucoup plus développé la poétique, la relation poétique au monde dans lequel on vit, les éléments poétiques, comment on structure une expérience par rapport à tout ça. Il y avait le lien vers l'évolution de l'art moderne aussi, l'esthétique. Il y avait certains témoignages, dont celui de Guy Marquinan de Sebrosa, qui était très, très touchant par rapport à...
Ça, c'est une histoire qu'il faut raconter, c'est par rapport à Kurschwitert, hein, je pense.
Oui, donc il a... Ben, une des œuvres de Kurschwitert, c'est une cabane, en partie, parce que Kurschwitert a créé des lieux, créé des maisons... des mers, et la plupart ont été détruites. Et dans des archives, Guy Marquinan a appris qu'il avait, quand il était exilé, Kurschwitert avait commencé à aménager une cabane sur une île au Danemark. Et donc, il a été retrouvé la cabane et il a filmé ce qui restait dedans, etc. Donc, à la fois la cabane, c'est déjà l'image bien du lieu, mais en plus, celle où a travaillé, habité Kurschwitert, c'est un peu particulier. Et alors, il y a eu aussi une contribution très scientifique, très phénoménologique, mais ça a son charme aussi, sur la notion d'empathie, donc une histoire de la notion d'empathie. Parce que tout ce qui se dit ici sur les lieux, depuis qu'on en parle et dans nos projets, c'est bien cette question d'empathie. C'est quoi l'empathie ? Est-ce que c'est simplement du pipeau ? Est-ce que c'est des trucs simplement comme ça, des états d'âme et sur lesquels il n'y a pas lieu de s'arrêter, il n'y a pas lieu de fonder quoi que ce soit ? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à creuser ? Donc, par rapport à... On parle de l'empathie. Donc, une des démarches, ça a été de l'installation de Marie-Pierre Bognol, c'était d'accompagner ça par une brochure qui s'appelle « La société des esthéticiennes ».
Oui, ce qui n'a rien à voir avec les salons de beauté. Hein.
Non, ne croyez pas qu'on va
qui
faire la promotion...
Qui est peut-être votre unique, d'ailleurs, Pierre Emptin.
Pour certains, peut-être. Oui. Et qui a un conte philosophique... qui donne un peu la description des personnages qui tisseraient l'empathie entre nous, les choses et les lieux. Les premières lignes, c'est « Elles viennent de tous les continents, elles sont de tous les âges. On les voit parfois dans certaines ruelles au travers desquelles elles filent, en coup de vent, vers des portes dérobées. Elles travaillent toutes sur leurs imagiers, la nature de leurs unités, la façon dont le monde, par les sens et par l'imaginaire, est assemblé. Ensemble, elles visent un renversement du langage qui leur permette de se nommer en détachant le terme d'esthéticienne du sens commun afin d'en faire un lieu à partir duquel elles puissent parler. Dans cette entreprise, chacune de leurs expérimentations doit révéler du monde davantage de beauté, une façon plus tendre de l'habiter. Elles sont aussi douces que déterminées. » Voilà, le travail des esthéticiennes dans l'ombre qui tisse, qui trace les liens d'empathie entre les lieux, nous. Voilà, c'est un petit livre qui en dit aussi beaucoup plus sur ce qui se trame.
Un petit livre que l'on peut évidemment se procurer aussi en se connectant au site internet de la collection Morel. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine avec des évocations musicales de lieux uniques hein, qui vous ont inspiré au travers de vos écoutes. Mais on va se quitter évidemment avec une musique encore, une musique signée Rolf Julius.
Oui, c'est un compositeur classique qui a après obliqué vers Fluxus, vers les installations sonores, et qui crée de plus en plus des musiques en fonction des environnements. Donc il y a des instruments traditionnels, le piano, mais il joue aussi avec des matières de l'extérieur, des matières où il s'installe. Il a fait des installations à Nantes. Il aime beaucoup diffuser sa musique dans des jardins japonais au Japon. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, avait un projet qui ressemblait un peu... à la collection Morel, il dit « J'ai longtemps réfléchi sur comment créer des espaces où l'on peut se retirer et y trouver du repos, où l'on peut voir, entendre et se concentrer, où l'on est coupé du monde extérieur tout en y participant. Ils doivent être simples, vides et créer une ambiance de silence avec l'aide de l'art ou de la musique ou les deux combinés. » Il développe un peu son concept aussi de créer un réseau comme ça de lieux dans le monde où on peut aller respirer, renouer avec le silence ou un autre type de musique, une autre manière de faire les œuvres d'art. Voilà, et ce climat se retrouve dans sa musique et c'est une inspiration de Collection Morel, donc il est dans la playlist.
Merci Pierre Hemptind et à lundi prochain.
Oui, à lundi prochain, merci beaucoup.
une séquence à retrouver dans le podcast de Musique 3 sur la page de Big Bang, de même que cette émission tout entière. Je vous rappelle que nous avons reçu Cindy Castillo en première partie d'émission pour son nouvel enregistrement Fragment paru chez Parati. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Francis Willems pour la mise en onde de ce rendez-vous de la musique contemporaine sur Musique 3. Je vous souhaite de passer une belle nuit, une très belle semaine, de belles fêtes de la musique et on se retrouve lundi prochain, 22h.